Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Comme vous le savez, j'admire les personnes qui osent, qui réussissent à créer leur entreprise et à vivre de leur passion. Et il y a aussi celles et ceux qui accompagnent ces entrepreneurs et entrepreneuses dans la durée, à chaque étape de leur projet passionnant, et parmi eux, les banques. C'est le cas du sponsor de cet épisode, à savoir BNP Paribas, qui conseille et accompagne au quotidien les entrepreneurs et entrepreneuses partout en France, grâce à différents programmes d'accélération tels que le WHY, We Are Innovation, dédié aux startups et aux entreprises innovantes, ou encore Act for Impact, pour les entreprises engagées de l'économie sociale et solidaire. Ces initiatives font de BNP Paribas un partenaire de confiance de ces nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses, acteurs et actrices du changement, et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse de les compter parmi les sponsors de Réel. Allez, j'arrête de parler et je laisse place à l'invité de la semaine. Justine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment ravie de te recevoir. Je t'ai découvert par ma petite veille personnelle. Je cherchais des profils, alors pas forcément féminins. J'avoue qu'au début, j'étais tombée sur ton associé, mais j'avoue que c'était plus sur l'aspect transgénérationnel, impact positif. Je regarde beaucoup LinkedIn et je suis tombée sur Colette Club, qui est ton entreprise que tu as cofondée avec plusieurs personnes dont on va reparler après et qui s'appelle Colette Club. Sans plus tarder, Justine, est-ce que je peux te demander du coup de te présenter d'un point de vue pro et perso en nous disant que ce que tu veux nous raconter. Voilà.
Salut Estelle, merci beaucoup déjà pour l'invitation, ravie d'être là. Donc oui, je suis Justine Renaudet, cofondatrice de Colette, une entreprise que j'ai cofondée il y a un peu plus de 2 ans avec plusieurs associés, on pourra en reparler. Juste quelques mots sur moi, mon parcours pro. Alors j'ai démarré en 2011 chez Blablacar, qui à l'époque était une toute jeune start-up pas très connue qui s'appelait covoiturage.fr. Et ça a été une formidable aventure de 6 ans à laquelle j'ai participé. J'ai eu beaucoup de chance d'arriver tôt dans l'aventure, de pouvoir travailler étroitement avec les fondateurs, et notamment Frédéric Mazella, qui m'a aidé à grandir, à développer mon mindset entrepreneurial. Et d'ailleurs, ça m'a mené 6 ans plus tard à monter une première boîte qui s'appelait Shaping, plateforme de cours de sport et de bien-être animée en live par des influenceurs. Et puis, première boîte, une super aventure, mais quelques erreurs de baby entrepreneur et tout ça m'a mené vers Colette.
Et puis un timing, on peut te le reconnaître quand même, c'était... Enfin, je pense que si t'étais tombée en plein confinement, ça aurait peut-être décollé un peu plus.
Ouais, exactement.
C'était juste avant le confinement, quoi.
Exactement. Et ça, c'est un peu l'anecdote.
Parce que t'avais été avant-gardiste, hein. T'as senti le truc.
Exactement. Parce que, donc, l'idée, c'était vraiment de donner la possibilité aux gens avec Shaping de faire du sport chez eux, ou d'où qu'ils soient, et de rester motivés en s'entraînant avec des coachs influenceurs qu'ils adoraient suivre sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'avant le Covid, le sport à la maison, derrière un écran, c'était pas quelque chose de répandu, un usage fréquent en France, contrairement aux US ou au UK. Et donc, ça prenait pas, quoi. La proposition de valeur, elle tombait à plat. C'est ça qui nous a poussé avec mon associé, en fait, à arrêter, faute de traction. Et puis, finalement, on a fait nos meilleurs mois avec Shaping pendant le premier confinement, forcément. Et voilà, mais moi, j'avais déjà bifurqué vers l'aventure Colette, donc sans regret, mais c'est vrai que c'est marrant de... Ça montre vraiment qu'une boîte, en fait, c'est pas qu'une bonne idée. Il y a aussi une vraie question de timing là-dedans.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et alors, Blablacar, ça a dû être fou quand même, non?
Ouais.
T'as dû apprendre plein de trucs. Combien de temps t'es resté au final?
Ouais, alors je suis restée 6 ans. Moi, j'étais responsable
c'est
de
beaucoup,
la communication.
Hein.
Ouais, c'est une longue aventure.
Ouais.
Pourtant, c'est vrai qu'en démarrant chez Blablacar, toute jeune diplômée, j'imaginais, voilà, rester dans une première boîte 2-3 ans max. Mais j'ai assez vite senti que j'étais quand même dans un environnement incroyable. C'est vrai que quand je suis rentrée chez Blablacar, le monde de la start-up, c'était très nouveau pour moi. On parlait pas du tout à l'époque de licorne ou quoi.
Ouais.
Mais j'ai vite senti voilà qu'on était sur quelque chose d'assez phénoménal avec Blablacar et vraiment on fait tous des études, enfin on est nombreux à faire des études et tout, mais je crois que j'ai vraiment appris à travailler et appris le métier en le pratiquant en fait chez Blablacar.
C'est ça, parce qu'en fait tu as fait des études de marketing,
mm-hmm.
mais c'est finalement là-bas que t'as le plus appris, tu peux dire ça ou
ouais.
ou j'ai tort en disant ça.
Non, mais c'est-à-dire que les études, voilà, ça reste très théorique. Après, il y a quelques stages pratiques, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'à mon époque, les stages, c'était pas aussi bien qu'aujourd'hui. Enfin, nous, je vois les stages qu'on propose aujourd'hui chez Colette, mais c'est tellement responsabilisant.
Je suis d'accord avec toi. Tu restes pas en circulaire, quoi.
Exactement.
T'es dedans et t'es dans l'action.
Complètement. J'ai fait plusieurs stages que je pensais vraiment super à l'époque, et quand je vois ce qu'on propose aujourd'hui, ou même ce que des candidats qui ont fait des stages avant d'arriver chez Colette ont fait, ça me rend ouf, quoi. Je me dis, mais
bien sûr,
ouais, ils arrivent dans le monde du travail déjà avec un sacré bagage,
et qu'en plus on compte beaucoup sur eux.
Totalement.
Que finalement, ouais. Tu vois, la jeune génération est aujourd'hui une richesse, et leur manière de voir, de faire, etc., est limite un enseignement pour des fondateurs ou. Et c'est vrai que on a inversé un peu la donne, où à l'époque où moi je suis beaucoup plus vieille que toi, mais on était plus là en apprenant.
Ouais.
Il fallait qu'on se taise, voilà, exactement.
Voilà.
Et on n'était pas du tout dans l'action, on n'était pas du tout dans l'échange.
Ouais.
On était beaucoup plus fais ça et te pose pas de questions. Et
exactement.
Et c'est plutôt une bonne chose que ça change dans l'autre sens.
Ouais, tout à fait.
Et du coup, donc Blablacar, au bout de 6 ans, tu te dis, j'ai fait le tour. Comment ça se passe? Ou on t'appelle pour créer Colette? Ou
alors,
comment ça se déroule?
Moi, au fond de moi, j'ai toujours voulu entreprendre.
Ouais.
Donc, j'ai des parents qui sont entrepreneurs, qui m'ont un peu ouvert les chakras, je pense. Et j'ai toujours eu envie de mener ma propre barque. Mais encore faut-il avoir l'idée. Et une idée surtout qui qu'on est dans les tripes, quoi.
Ouais.
Qui empêche de dormir la nuit, qui ouais. rend les journées beaucoup trop courtes. Et c'est vrai que chez Blablacar, j'avais cette envie d'entreprendre. En plus, l'équipe fondatrice me donnait vraiment envie, parce que ils rendaient la chose tellement cool et passionnante que je me disais, ouais, j'ai envie d'être comme eux, en fait. mais je me rendais aussi compte que j'étais très jeune,
ouais.
que j'avais énormément à apprendre. J'ai vite senti que c'était une opportunité de dingue, en fait,
ouais.
d'être dans cette entreprise. Et à un moment, je me suis dit, il n'y a pas d'urgence. Je suis rentrée chez Blablacar, j'avais 23 ans. J'avais beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et je suis tellement heureuse, finalement, voilà, de ne pas m'être précipitée, parce que chez Blablacar, j'ai tout vécu, en
Bien
fait.
Sûr.
J'ai vécu l'internationalisation, j'ai vécu les démarrages d'une petite start-up qui a scalé, qui est devenue une licorne.
Puis surtout, tu as vécu une aventure à laquelle pas grand monde ne croyait au départ. Enfin, il a quand même
Exactement.
Inventé un truc qui plaisait pas à
ouais.
tout le monde. Hein. Enfin,
Exactement.
En tout cas, où on se disait, mais c'est quoi le covoiturage? Comment on va faire pour voyager avec un étranger? Enfin,
complètement.
C'était un nouvel usage qui n'était pas du tout rentré dans l'acception
publique.
Ouais,
tout à fait. Un nouvel usage. À l'époque, le covoiturage, les gens voyaient ça comme une pratique hyper route de baba cool 68ard qui lève le pouce au bord de la route.
C'est vrai.
Et c'est vrai que quand j'ai commencé à en parler à mes copains à l'époque, j'arrive chez covoiturage.fr, tout le monde me regardait des grands yeux.
C'est vrai que ça s'appelait comme ça au début.
Voilà, mes parents se sont demandé un moment où est-ce que j'étais tombée, est-ce que je faisais pas ma crise d'ado à retardement. Et donc, c'est vrai que personne n'y croyait, et je suis d'autant plus contente finalement de m'être rendu compte que c'est pas parce que plein de gens autour de soi ne croient pas en son idée qu'on va pas y arriver.
Bien
enfin,
sûr.
Voilà, c'est une belle leçon aussi et que à laquelle je me souviens aussi aujourd'hui pour Colette, parce que la cohabitation intergénérationnelle, et on en parlera
bien
après
sûr.
Mais c'est pareil, c'est comme le covoiturage, c'est un nouvel usage, un nouveau mode de vie, ça demande du temps et on a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous disent non mais mettre des jeunes sous le toit de personnes âgées, ça ne marchera jamais. Et je l'ai vécu chez Blablacar, le fait qu'une pratique puisse vraiment se développer à grande échelle, ça me donne aujourd'hui la foi en fait en le fait qu'on va y arriver.
Et puis finalement, tu as raison de faire le parallèle parce que les voyants rouges, ils sont quasiment identiques en fait. Parce que tu as l'aspect sécuritaire, tu as l'aspect social, tu as l'aspect financier au sens où le business model est... Alors, pas similaire, mais je veux dire, il y a des points de similitude. Donc, enfin, je pense que tu as dû t'enrichir de Blablacar pour Colette.
Totalement. Mais c'est une des raisons pour laquelle j'ai aussi eu envie de cofonder cette entreprise. Ça me parlait énormément de par mon expérience passée. Tu l'as très bien dit. En fait, il y a l'impact social. Il y a...
Ouais, alors justement,
le business model, il y a tout.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Donc on va peut-être, parce que là ça fait 10 minutes qu'on se parle, mais on va juste rappeler ce que fait Colette. Donc c'est de la cohabitation transgénérationnelle. L'idée, c'est de prendre une population de gens qui ont plus de 60 ans. On les appelle comme on veut. J'aime pas les appellations. De se dire, bah voilà, ces personnes ont éventuellement une chambre de disponible.
Ouais.
Que l'on va ouvrir ou qu'on va proposer à une catégorie de jeunes étudiants ou de jeunes tout court qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un studio en entier ou qui ont un sujet de logement urbain. Donc c'est ça. Donc en fait, vous avez, je crois, 500 hôtes, c'est ça ?
Ouais, alors
donc les autres, c'est les personnes qui ont plus de 60 ans.
Exactement, c'est ça. Il y a un vrai critère d'âge. Donc tu as très bien résumé, c'est ça, on aide les jeunes de moins de 30 ans à s'installer chez des hôtes de 60 ans et plus qui ont une chambre libre à louer chez eux.
Ouais.
Rien qu'à Paris, on a plus de 100 000 seniors qui disposent d'une chambre inoccupée à leur domicile. Donc nous, notre mission, c'est vraiment de révéler au grand jour ce gisement de logement qui est aujourd'hui inexploité.
Complètement.
Voilà.
Complètement.
Donc,
C'est parti quand même. Toi, tu m'avais raconté une anecdote avant qu'on enregistre, mais sur une dame qui vivait dans ton immeuble, je crois.
Oui.
Et du coup, ça explique un peu ta raison d'être au sein de Colette. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu l'anecdote, parce que c'est assez rigolo. Enfin, c'est rigolo.
Ouais.
Pas forcément rigolo, mais c'est assez marquant.
Ouais, tout à fait. Mais souvent on dit que voilà, quand on lance une entreprise, ça part d'un constat ou d'un besoin personnel. Moi, c'est le cas. Il y a une dizaine d'années, j'avais une voisine de palier qui s'appelait Renée, qui avait à peu près 75 ans, je pense, et qui vivait seule dans son logement. Et en fait, elle était tellement seule qu'elle passait la journée à parler à son poste de radio. C'était la seule interaction finalement qu'elle avait avec quelqu'un dans la journée, hormis quand on la croisait dans l'ascenseur, ou d'ailleurs, elle nous tenait la jambe pour nous poser des questions plus anodines les unes que les autres.
Ouais, bon, pour parler.
Donc, c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu une blague avec mon copain de l'époque. On trouvait ça hyper loufoque. Et puis bon, moi, elle me gonflait un peu, on peut le dire. Hein. Et c'est vrai, dès que j'ouvrais la porte, elle était là, elle ouvrait aussi. Enfin, bon, un peu oppressant. Mais il y a un jour où j'ai vraiment eu un déclic et je me suis dit, mais en fait, cette femme, elle est seule à mourir.
Ouais.
Elle souffre tellement de solitude qu'elle saute sur la moindre occasion pour parler à quelqu'un.
Bien sûr.
Je sais pas pourquoi ça ne m'avait pas sauté aux yeux avant, mais il y a vraiment eu un avant et un après.
Ouais.
Et à tel point que du jour où je me suis rendu compte de sa solitude, j'ai commencé à voir des personnes âgées seules un peu partout, seules assises dans les parcs, en pleine journée, seules avec à tirer leur caddie au supermarché. Ça m'a marquée à tel point en fait qu'à ce moment-là, je me suis engagée en tant que bénévole dans une asso qui s'appelle Au bout du fil, dont la mission c'est d'appeler une fois par semaine des personnes âgées qui sont seules. Et donc ces personnes, elles ont une interaction par semaine avec une personne, un bénévole de l'asso qui les appelle pendant 10 minutes.
Ça existe encore ?
Ça existe encore.
Ouais.
Et rien que d'y penser, en fait, ça me fait froid dans le dos parce que je me dis, mais une vie où tu attends toute la semaine ton appel téléphonique de 10 minutes. Et il nous disait bien, surtout, c'est pas plus de 10 minutes, parce qu'évidemment, il y avait un nombre incalculable de personnes âgées à appeler.
Ouais.
Bref, tout ça m'a fait dire à un moment qu'il y avait un vrai problème de solitude et d'isolement chez les personnes
bien
âgées.
Sûr.
Moi, à l'époque, je bossais chez Blablacar, donc j'avais pas prévu spécialement de changer de métier ou quoi. Mais je m'étais toujours dit, un jour, il faudra que je m'attaque à ce problème de la solitude des seniors, parce qu'il y a un vrai problème de société.
Bien sûr.
Et c'est vrai que quand mes autres associés m'ont contacté à la fin de l'aventure Shaping pour me pitcher le projet, ça a fait tilt immédiatement. Je me suis rappelée de René et je me suis dit, allez René, c'est maintenant. Allez, on attaque le problème. Et j'ai été convaincue, mais vraiment, mais en une minute de rejoindre l'aventure. Et juste pour l'anecdote quand même, on était quand j'ai rejoint Colette, on était en plein confinement, le premier de 2020. Et j'avais tellement envie de me lancer là-dedans, c'était le bon moment, que avant même de rencontrer en personne mes associés actuels et de bosser avec eux, je me suis jetée corps et âme dans l'aventure et voilà.
C'est eux qui sont venus te chercher ?
Ouais, tout
D'accord,
à fait.
D'accord, ok. Tu les connaissais par ailleurs ou
Non, pas du tout. Je les connaissais pas. Ils m'ont contacté en fait sur LinkedIn. Ils cherchaient en fait un profil comme le mien, marketing, brand, avec l'aspect communautaire aussi, puis marketplace.
D'accord.
Bref, je réunissais un peu tous les points et donc ils m'ont contacté sur LinkedIn, tout simplement.
Alors justement, en parlant de marketplace, est-ce que tu peux nous parler un peu du modèle économique ?
Ouais. Ouais.
C'est-à-dire comment ça fonctionne concrètement.
Donc nous, on développe une plateforme en ligne qui permet de faire matcher l'offre de chambre chez les seniors avec une demande de logement des jeunes.
D'accord. C'est le Tinder de la chambre.
Voilà, c'est ça.
La chambre en location d'ailleurs, on peut dire ça.
Et exactement, c'est de la chambre chez l'habitant, la location chez l'habitant.
Ouais.
La différence majeure de notre plateforme par rapport à d'autres, type par exemple Airbnb, bon déjà c'est que nous on se positionne sur de la moyenne et longue durée et non du séjour touristique très court.
Bien sûr.
Mais
donc, moyenne et longue durée, c'est à partir de 3-4 mois, c'est ça?
Enfin, voilà, ça, minimum 3 mois. Ouais. Et puis, après, ça peut, il n'y a pas de date limite. Mais en moyenne, nous, les cohabitations durent 6-7 mois. Soit l'équivalent d'un semestre d'études ou d'un stage fin d'études, en fait.
OK.
Et donc, la principale différence, c'est le fait qu'on ait une plateforme privée, enfin une plateforme fermée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des profils de jeunes qui s'inscrivent sur la plateforme et qui peuvent tout de suite entrer en contact avec des hôtes, faire leur demande de location.
Vous avez une vérification préalable
Exactement.
De l'identité de la personne, etc.
Tout à fait. Il y a toute une étape donc de ce qu'on appelle le profiling qui nous permet à la fois du côté des hôtes ou du côté des jeunes de s'assurer qu'on est face à des profils de confiance qui répondent de tous les critères, qui sont là pour les bonnes raisons, etc. Et une fois qu'on a validé ça, ils intègrent la plateforme et ils peuvent en effet trouver leur location.
Ok. Donc en termes de financement ensuite, enfin en termes de modèle, il loue au mois ou comment ça se passe ?
Exactement. Donc le jeune va louer sa chambre donc en ligne et ensuite tous les mois le loyer transite entre guillemets par Colette
ça
et
passe
nous
par vous.
Voilà on prélève des frais de service exactement à hauteur de 15% sur le loyer perçu par les hôtes.
D'accord.
Et du côté du jeune, il y a des frais aussi de 38 euros par mois de location. Il n'y a
D'accord.
pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais de dossier, mais il y a, voilà, c'est cette commission qui s'applique.
Ok, et grosso modo, on va dire, je ne sais pas, en termes de positionnement par rapport aux offres de marché, tu vois, dans le studio, vous situez à peu près où tu vois, enfin, combien ça coûte concrètement par rapport à une chambre de bonne ou un studio, je n'ai pas le terme chambre de bonne.
Alors, nous, on est entre 30 et 45% moins cher sur D'accord. Paris. Pour te donner une idée, en 2021, le prix moyen mensuel d'un studio d'étudiants de 12 mètres carrés à Paris, c'était 881 euros par mois.
Incroyable.
Ouais, complètement hallucinant. C'est waouh.
Wow.
À chaque fois, je m'en remets pas de ce montant. Ouais. Et donc nous, tu vois, sur Paris, toute charge comprise, on est aux alentours de 600 euros.
D'accord.
Sachant que le prix n'est pas le seul avantage, évidemment. Il faut voir que on propose des logements qui sont grands, qui sont spacieux.
Oui, c'est ça. C'est pas comme s'il était enfermé dans 7 mètres carrés, quoi.
Exactement. Il y a évidemment l'accès aux parties communes partagées avec l'hôte, une grande cuisine, un salon, parfois même une terrasse, un balcon. C'est un environnement de travail qui est beaucoup plus agréable et propice aux études qu'une chambre de bonne sous les toits avec les toilettes sur le palier, quoi. Mmh. Pour vraiment aller dans le cliché, mais bon, de nombreux étudiants, c'est leur réalité, hein. Mmh.
Alors, tout paraît très beau, c'est magique quand on y pense, mais donc il y a après l'aspect, on va dire, un peu plus problématique, ou en tout cas avec si on regarde par le pendant difficulté, tu vois, enfin c'est parce que quand on lit ça sur le papier, on se dit waouh, c'est génial, il y a pas de sujet, etc. Mais je pense que forcément tu règles des problèmes toute la journée. Donc du coup, vous êtes assuré par AXA. Moi, je l'ai vu sur le site, donc ça veut dire qu'en gros c'est une assurance habitation. Tout comme un locataire en prend quand il loue un endroit quelconque. Mais moi, ce qui m'intéresse de creuser avec toi, c'est quoi vos sujets, tu vois ? Enfin, est-ce que vous avez déjà eu des plaintes de la part de vieux pardon, oulala, il ne faut pas utiliser le terme de vieux, mais enfin, en tout cas, est-ce que vous avez déjà eu des plaintes ?
En tout cas, dans notre bouche, c'est très affectueux. Oui, oui. Très affectueux.
Non, mais est-ce que, par exemple, je ne sais pas, tu as eu des retours négatifs, tu vois ? Est-ce que parfois, l'expérience est mal passée ? Est-ce que... quand elle se passe mal, ce qui peut arriver, comment vous solutionnez le truc, quels sont les gros sujets, tu vois, en termes d'évolution, est-ce que c'est le recrutement, est-ce que c'est, je sais pas, l'expansion géographique, enfin, voilà, quels sont les, on va dire, les zones de risque, on va pas parler de SWOT, mais, mais tu vois, enfin, en gros, voilà, la face cachée du truc, quoi.
Ouais, mais alors... Le succès d'une cohabitation intergénérationnelle, c'est vraiment de faire un très bon matching entre un jeune et son hôte.
Bien sûr.
Ce qu'on voit, c'est que le plus gros des sujets qu'on a à traiter chez Colette, c'est des problèmes de communication qui sont parfois vraiment très bébêtes. Hein. Mmh. Ça va être, Hugo laisse ses cheveux dans la baignoire, c'est inadmissible. Et en fait, l'hôte se tourne vers nous parce que Il ou elle n'ose pas le dire aux jeunes. Mmh. Donc nous, on est là, hein, ça fait partie de notre proposition de valeur aussi, mais on est là comme médiateur, tiers de confiance, facilitateur de dialogue, quoi. Donc vraiment, le gros des sujets, c'est la communication. D'accord. Mais c'est comme dans un couple. Hein,
Ouais, bien sûr.
Voilà, dès que le dialogue est rompu, ça commence à être la cata.
C'est ça.
C'est exactement pareil. Donc nous, voilà, on a ce rôle-là et on arrive à désamorcer les petites bombes grâce à être là en tant que médiateur et aussi prévenir des problèmes éventuels de communication en envoyant tous les mois des enquêtes auprès de nos binômes pour leur demander est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a un sujet en cours ou vous sentez quelque chose qui vous titille. On arrive à les identifier avant que ça devienne un très gros sujet et qu'il faille intervenir.
Bien sûr.
On est intervenu une seule fois et donc maintenant on est très vigilant par rapport à ça. Il se trouve que l'hôte ne nous avait pas dit que l'un de ses fils était encore à la maison. Et donc tout se passait bien entre l'hôte et le jeune, mais alors entre les deux jeunes, c'était voilà, il y avait vraiment une grosse mésentente.
Ouais.
Et on a dans ce cas-là relogé le jeune.
Okay.
On a pris nos affaires, on est monté dans une voiture, on a déménagé le jeune. Voilà, nous on est là 7 sur 7, 24 sur 24 pour assister notre communauté. Mais fort heureusement, grâce à tout le profilage qu'on fait en amont et le bon matching, les sujets restent assez rares.
OK.
Voilà.
Justine, j'ai oublié de te poser une question. L'entreprise, elle est fondée comment ? C'est-à-dire que vous avez levé des fonds, vous avez des actionnaires, vous avez mis de l'argent de votre poche. Comment ça s'est fait ?
Au départ...
Tu nous dis que ce qui est officiel. Ouais. Enfin, voilà, je te demande pas de révéler des secrets.
Au départ, on a trois associés originels qui ont mis la main à la poche pour lancer Colette.
D'accord.
Alexandre Gosset, Mathieu Vaxeler et David Josette. Mmh. Et dès septembre 2020, on a fait ce qu'on appelle un pré-seed d'€1 million. Donc, on est allé voir des business angels et des investisseurs. Et on a réussi à lever auprès d'eux €1 million pour lancer Colette et valider, en fait, la proposition de valeur sur une zone Paris-Île-de-France. Voilà.
Paris-Île-de-France. Donc voilà. En fait, ça veut dire qu'il y aura d'autres levées de fonds, tu penses ?
Exactement. Bah là, d'ailleurs, on est en train de finaliser notre deuxième tour de table. J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles à annoncer, tu vois, dans quelques jours, là.
Bah, tu me tiendras au courant. Donc du coup, les évolutions de Colette, c'est ça, c'est une expansion d'abord géographique. Enfin, je suppose que vous voulez aller dans d'autres villes que Paris.
Oui, tout à fait, ouais. L'expansion au niveau national, sachant qu'on a aussi des ambitions internationales. Hein.
Vraiment, parce que du coup, moi, c'est ça ma question. C'est, ça va être, est-ce que c'est un modèle duplicable, tu vois ? C'est ma vraie question. Je ne sais pas si, quoi que si. Parce que finalement, quand ils pensent Blablacar maintenant, ils n'ont pas de sujet à ce niveau-là.
Ouais, après, c'est vrai que Blablacar, dans certains pays, ça n'a pas fonctionné.
Ouais, ça marche pas.
Donc, moi, on a la certitude que c'est duplicable. Après, c'est vrai qu'il
y a un sujet de culture, quand même.
Exactement. Mm. Je pense qu'il faudra faire des bonnes études de marché en amont avant de se lancer dans un nouveau
sociologie,
pays.
Sociologie,
voilà, exactement. Mais là, en fait, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est justement valider que le playbook, finalement, parisien, il est duplicable déjà dans d'autres villes de France.
C'est
Donc là, depuis janvier 2022, on s'est lancé à Lyon et Bordeaux.
Ouais.
Et actuellement, là, on sait déjà qu'on arrive à trouver des chambres dans ces villes, qu'on arrive à trouver des jeunes, et on est en train de créer des premiers binômes. Donc, ça valide, encore une fois, l'équation économique qu'on a créée sur Paris, le playbook.
Bien sûr.
Et donc, si on voit que Lyon-Bordeaux, ça mord très, très bien, après, on pourra mettre un peu l'accélérateur sur les autres grosses villes de France.
Donc, on le disait, il y a un aspect très social. Dans Colette, vous faites des événements aussi, n'est-ce pas ?
Oui,
tout
à fait. Vous
réunissez des gens en physique, etc.
Ouais.
Parce qu'il y a une demande, je suppose, quand même. Parce que dans vos hôtes, il y a des gens qui, je pense, ont envie de rencontrer des nouvelles personnes. Enfin, peut-être chez les jeunes aussi, hein, je ne sais pas. Mais,
tout à fait.
Mais j'imagine qu'ils utilisent Colette comme un club.
Oui. Exactement. D'où le nom. En fait, on s'est toujours appelé Colette Club. On a vu, très tôt, on s'est dit Colette, c'est avant tout une communauté. Et c'est vrai que rapidement, notre communauté d'hôtes nous a manifesté l'envie, le désir de se rencontrer entre eux, de booster leur vie sociale, de se faire des nouveaux amis. Et on a commencé en fait à créer ce club Colette, qui est un peu une plateforme de rencontres amicales, d'activités entre seniors. On l'a développé d'abord pour notre communauté d'hôtes et très rapidement on s'est rendu compte que ça plaisait à plein d'autres seniors qui par ailleurs n'avaient pas de chambre à louer mais qui voulaient quand même bénéficier de la communauté. Voilà, exactement. Et ce qu'on a réussi à créer avec Colette, c'est vraiment une marque très forte en laquelle les seniors ont confiance, une marque qu'ils adorent. Parce qu'on a une identité qui est très très fraîche, très jeune, c'est non stigmatisant.
Bien sûr.
Et donc on attire beaucoup de seniors qui ont envie de participer à cette aventure et qui adorent aussi le côté intergénérationnel de faire des événements. Il y a des jeunes, ils se sentent pas encore une fois stigmatisés et ghettoisés entre eux.
Bien sûr.
Et donc finalement voilà, cette communauté Colette prend une très grosse importance aujourd'hui et ça nous permet aussi de consolider la marque qu'on crée, qu'on veut devenir la marque numéro un des seniors en France.
Justine, tu fais partie des femmes Forbes.
Oui.
On en parle parce que le classement est sorti il n'y a pas longtemps. Donc moi, j'ai trouvé ça génial. En plus, je t'avais trouvé, enfin, on était rentrés en contact avant. Ça fait quoi d'être dans Forbes ?
Alors, c'est incroyable. Je suis super fière de faire partie des femmes Forbes 2022. C'est une totale surprise.
J'étais étonnée qu'ils contactent pas les gens. Enfin, ceci dit, je l'ai su parce que ma mère y était. Elle avait pas été contactée non plus.
Non, totale
c'est
surprise.
Méga surprise.
Pour la petite anecdote, je l'ai découvert via un post LinkedIn sur lequel j'étais taguée. J'ai cru à une erreur en fait au début. Je me suis dit la personne n'a pas tagué la bonne Justine. Puis je me rendais à un rendez-vous. Et je croise un kiosque et là je me dis bon je vais regarder quand même dans le magazine, je commence à le feuilleter frénétiquement, du coup le monsieur
c'est comme
du kiosque,
les résultats du bac, tu sais.
Ouais, exactement, le monsieur du kiosque commence à me regarder avec un sale œil du genre ouais celle-là elle regarde le magazine mais
elle
veut pas le payer.
Ouais.
Donc il s'approche, il me demande ce que je veux, donc je lui dis bah écoutez je me cherche dedans. Il s'est mis à côté de moi, il a commencé à regarder et là tout d'un coup il a dit oui regardez là, et en effet c'était moi. Donc, totale surprise.
Sympa.
Hyper heureuse, en vérité, surtout pour le coup de projecteur que ça met sur Colette, bien sûr. Et je trouve ça vraiment chouette que ce magazine mette en avant des entrepreneurs qui ne font pas partie de Licorne ou du classement Next 40. C'est vrai que je trouve qu'on met toujours un peu en avant les grosses boîtes, les grosses scale-up françaises, les success stories, c'est très bien. Mais finalement, il reste un petit peu les miettes niveau communication pour les autres,
je suis d'accord.
Qui font aussi un super boulot.
Je suis d'accord.
Et donc là, je me suis dit, allez, c'est cool parce que pour une fois, c'est pas toujours les mêmes qui sont mis en avant, quoi. Mmh.
D'autant qu'en plus, vous êtes une boîte très jeune. Enfin, j'ai regardé un peu sur votre site, je vous connais pas, mais j'étais rentrée en contact avec un de tes associés au début. Vous donnez envie, en fait. Tu veux que je te dise? Parce que je suis allée me balader sur le site. Déjà, le site est canon.
Merci.
Je sais pas, vous avez tous une bonne tête et tout. Enfin, je sais pas, ça donne envie, quoi. Vraiment, c'est cool. Non, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais t'as raison, c'est chouette de mettre en avant, de la part de Forbes, de mettre en avant des entreprises qui ont pas levé 4 milliards, enfin,
ouais,
tu vois, qui sont exactement. Pas, voilà, mais qui sont, qui font quelque chose pour la société, pour créer du lien.
Ouais.
Et moi, je pense que vraiment, enfin, je suis très heureuse parce que c'est pas une attachée de presse, tu vois, qui m'a contactée pour te faire venir dans le podcast. C'est vraiment moi qui ai fait la démarche parce que je trouve que votre boîte mérite vraiment d'avoir une jolie vie et une longue vie.
Merci.
On a parlé des évolutions. Oui, alors attends, parce que je voulais parler d'un autre truc. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire de ce que tu as pu observer, tu vois, depuis le début de Colette sur le lien social? C'est-à-dire que justement, on parle de lien social, mais depuis le confinement, tu as dû sentir, en plus, vous avez lancé Colette en confinement, donc je pense que vous avez vraiment vu les besoins
oui.
de la nouvelle France. Oui. Qu'est-ce que tu ressens à ce niveau-là ? En pur feeling, tu vois, enfin la question est large, mais qu'est-ce que tu observes, tu vois, depuis cette période ?
Alors, ce que j'observe depuis cette période, mais même, je dirais, depuis que je suis dans cet univers que je connaissais pas avant, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de clichés sur les jeunes et les vieux, sur le fait que on est face à deux générations qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas, qui ne s'apportent pas. Et c'est tout l'inverse qui se passe. On en a des exemples au quotidien de formidables cohabitations, des histoires, mais incroyable entre des jeunes et leurs hôtes. Et donc, il faut vraiment arrêter avec ce cliché de les jeunes n'aiment pas les vieux, parce que c'est tout l'inverse, en fait. Les jeunes sont hyper curieux des anciens.
Bien sûr.
Envie de comprendre quel était leur mode de vie avant, comment ça se passait, envie d'avoir leurs conseils. Et de la même manière, les seniors, c'est pas des gens bougons et gris et qui sont dans le bus aux heures de pointe pour faire chier le monde. En fait, c'est des personnes qui ont envie de rester connectées avec le monde, de comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui, comment est-ce que on drague aujourd'hui, c'est quoi le vendredi soir d'un jeune de 22 ans aujourd'hui. Donc le constat, en fait, c'est des échanges et beaucoup de bienveillance, de partage et d'envie de se rencontrer et de se parler, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Justine, je finis toujours mes interviews avec les mêmes questions, à savoir un coup de cœur, un coup de gueule. Avant, je posais la question de la vision de la France, mais honnêtement, je vais la bazarder, cette question, parce que à chaque fois, les gens pensent que c'est politique, mais ça n'a rien de politique, mais on va la mettre de côté maintenant. Non, maintenant, c'est mes conseils de parents. C'est-à-dire que depuis que je suis devenue maman, je pose cette question, et quand j'ai des profils exceptionnels face à moi, j'ai forcément envie de leur demander quels sont leurs conseils. Tu vois, que tu es un tout petit bébé ou un grand garçon ou une grande fille. Mais voilà, dans l'ordre, t'es pas obligé d'avoir un coup de cœur, t'es pas obligé d'avoir un coup de gueule et t'es pas obligé de répondre à ma question de conseil de parents. Mais les trois ont pas grand-chose à voir. Mais coup de cœur, ça peut être une série. Alors, je sais que toi comme moi, on n'a pas trop le temps de lire en ce moment. mais du coup, c'est voilà, ça peut être culturel. Le coup de gueule, bah, ça porte son nom, comme son nom l'indique, c'est un coup de gueule. Tout le monde n'en a pas. Et voilà. Bon, je te laisse me répondre. Tu prends le temps de la réflexion. Il y a aucun problème. Hein.
Alors le coup de gueule, il est très très récent parce qu'il date.
J'aime bien parce que tu commences
soir.
Par le coup de gueule.
Ouais, pour finir sur une note positive.
Je l'ai vu passer sur LinkedIn, je crois.
Vraiment, en fait, un gros coup de gueule. Voilà, j'ai vu ce post de Kylie Jenner, donc l'influenceuse suivie par 359 millions de personnes.
Je comprends pas.
Donc pour ceux qui nous écoutent, j'explique la photo du post. On voit donc Kylie Jenner sur le tarmac. Enlacer son petit copain, voilà, à l'aéroport, et entouré de deux jets privés. Et avec en légende, on prend le tien ou le mien ? Et ça m'a foutu dans une rage, mais pas possible. Je me suis endormie à 1h30 du mat après ça. Parce que je me dis, mais comment en fait des personnes qui sont suivies par autant de gens, dont des ados, peuvent encore prôner ce mode de vie qui va à rebours de tout ce qu'il faut faire aujourd'hui.
Je suis d'accord.
Et qui en sont fiers, en fait, sont fiers de montrer ça. Alors que, pour moi, enfin, je suis peut-être naïve, hein, je vis peut-être dans le monde des bisounours, mais quand t'es suivi par 359 millions de personnes, t'as un devoir d'exemplarité,
bien
en
sûr,
fait. Et si c'est pas ces personnes-là qui commencent à mettre le pied à l'étrier pour qu'on change de mode de consommation, ça, on n'y arrivera pas, quoi.
Mais le problème, c'est que tu te bats, à mon avis, contre des... Enfin, je partage mille fois, hein, mais là où je te rejoins complètement, c'est que j'ai un peu l'impression que deux mondes s'opposent aujourd'hui.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, tu as des gens qui sont conscients et tu as des gens qui sont inconscients.
Ouais.
Je pense vraiment que c'est ou éveillé et non éveillé, tu vois. Donc, et j'avoue que moi, je vois beaucoup, beaucoup de trucs qui mérissent, qui me rendent malade même. Mais à commencer par, si tu veux, des sujets de réseaux sociaux où effectivement, des jeunes hommes et des jeunes femmes sont suivis par d'autres plus jeunes et d'autres hommes ou femmes. Et ça m'attriste beaucoup et ça contribue en plus à un abaissement du niveau intellectuel global, quoi.
C'est le nivellement par le bas.
Ouais, exactement.
Ouais.
Donc ça, c'était ton coup de gueule
Le coup de cœur, c'est... alors, j'ai un petit bébé de 10 mois, j'en parlerai après.
Ouais.
Mais alors, j'ai quand même eu le temps de regarder une série il y a pas longtemps qui s'appelle Une mère parfaite sur Netflix, avec Thomas Sisley et Julie Gayet.
Ouais.
Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bon. Je sais pas pourquoi, depuis quelques années, avec un peu les scandales avec François Hollande et tout, j'avais une assez mauvaise opinion de cette comédienne. Je sais pas pourquoi, c'était totalement infondé.
Oui.
En fait, je l'ai trouvée excellente dans la série.
C'est une bonne actrice, elle est assez bonne actrice, ouais.
Ouais, et vraiment, je vous conseille, elle est très agréable à regarder. Il y a que quelques épisodes, donc c'est parfait quand on est parents. Voilà. Il y a pas 8 saisons et 20 épisodes.
Ouais, c'est ça. J'aime bien Thomas Sisley. C'est sympathique. Et conseil de parents, du coup.
Ouais, alors
est-ce que
moi
t'as un truc à dire?
Ouais, j'ai un bébé de 10 mois.
Ouais.
Donc, je suis en plein dedans. le conseil, et je pense que ça va pas être très original, mais moi, ce qui me sauve dans mon quotidien aujourd'hui, c'est la planification.
Ouais, donc, l'organisation.
Exactement.
L'anticipation.
L'anticipation, c'est ça.
Ouais.
Pour pouvoir assurer tous les rôles, le rôle de
entrepreneuse maman,
le rôle
femme,
de maman, le rôle de femme, le rôle d'amie, et tout ce qu'on veut. Ça demande d'être programmé à l'avance, en fait, pour pouvoir tout faire. Donc, je suis une adepte des to-do list et surtout de bloquer les créneaux dans l'agenda à l'avance.
Ouais.
Donc voilà, planification, c'est le mot d'ordre.
T'as raison. T'as entièrement raison. Et d'autant qu'en plus, ça va crescendo après.
Oh là.
Plus
oui,
ça grandit,
j'imagine.
Plus c'est... Bah écoute, Justine, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à Réel. J'étais
merci.
Vraiment ravie de te recevoir. Comme je te le dis, je te souhaite beaucoup de réussite à toi et tes associés pour Colette. Et tu reviens quand tu veux dans le podcast.
Merci beaucoup Estelle et à bientôt alors.
À bientôt. Bye bye.
Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.